États-Unis. Et en direct du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Collo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale de l'ONU. Et en tant que journaliste correspondant dans les années 80, il a couvert plusieurs conflits en Afrique, y compris dans la région des Grands Lacs. Et je vais justement démarrer avec vous, Jean-Pierre, lors de leur sommet conjoint en Tanzanie samedi dernier, les dirigeants d'Afrique australe et de l'Est ont donc demandé à leur état-major de proposer un plan de mise en œuvre d'un cessez-le-feu inconditionnel d'ici jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui. Comme les précédentes brisées, avant même d'avoir pu produire des effets, cette énième trêve était-elle vouée au départ à l'échec?
Si on peut poser la question.
Jean-Pierre Collo. Jean-Victor, pardon.
Oui. Il n'y a pas de quoi, merci beaucoup. Cet accord qui a été annoncé à Dar es Salaam risque effectivement d'être couronné par un échec, à moins que toutes les parties se ressaisissent. D'ailleurs, il y a un renforcement des forces en présence sur le terrain. Il est clair que le Burundi voudrait s'impliquer pour ses propres raisons sécuritaires. Il est aussi clair que l'Afrique du Sud ne va pas se retirer, même si l'Afrique du Sud a perdu 14 de ses soldats. Les Sud-Africains viennent d'envoyer un contingent de 800 hommes de troupes au Congo. Cela veut dire en réalité que si la paix n'a pas de chance pour le moment, on risque de revoir un conflit malheureusement qui risque d'être un peu plus généralisé. Il faut véritablement croire qu'avec l'ouverture bientôt du sommet de l'Union africaine, des voix de paix vont être entendues et que les uns et les autres vont se mettre autour d'une table.
D'accord, on reviendra un peu sur ce sommet de l'Union africaine prévu ce week-end. Jean-Pierre Karegué, la prise de Goma par les rebelles du M23 et les récents combats aux abords de Bukavu marquent une nouvelle phase du conflit. Quelle est la stratégie du M23 et de ses soutiens dans cette escalade?
Bon, je ne peux pas parler de la stratégie du M23 parce que je ne suis pas un des membres du M23, mais plutôt j'aimerais revenir à cette question sur des accords. Donc, et puis peut-être que je pourrais parler un tout petit peu, de répondre un peu à votre question. Mais moi je crois quand même que le sommet de la Tanzanie présente quelques espoirs, ne fût-ce que dans la façon, dans le texte, ça pourrait changer. Parce qu'il y a quand même un des éléments assez importants, c'est que les participants ont reconnu que une solution durable doit être politique et non militaire, donc politique et diplomatique. Et donc ils appellent à un cessez-le-feu. Et pour la première fois, je crois que ce qui est important, ils insistent sur des négociations directes avec le M23. Et je crois que ça, c'est un élément important. Bien sûr, on peut arriver à... Il peut y avoir des échecs qui pourraient arriver, et cela est simplement parce qu'on ne veut pas aller aux causes profondes, aux causes durables, aux causes premières de crise qu'on a dans le Nord. Bon, pour ce qui est de l'avancée du M23, évidemment, c'est un mouvement rebelle, c'est un mouvement armé, et donc dans la stratégie, autant que pour le gouvernement, c'est quand il y a des luttes, qu'il y a un qui avance, il y a l'autre qui recule. Donc,
mais le M23 avait promis une trêve, en tout cas, que le groupe rebelle lui-même a finalement violé.
Oui, quand vous parlez par exemple de violence générale, donc si vous avez suivi, il y a ce qu'on peut appeler la reprise, et ça a été plutôt une réaction, c'est-à-dire là vous êtes en train de parler donc le gouvernement qui arme, qui vient avec des troupes et qui attaque le M23, donc c'est à ce niveau, donc le M23 se trouve dans la situation, dans l'obligation, me semble-t-il, de réagir.
Et quand on parle du M23, D'accord, on pourra revenir sur ça, Frédéric Kamani.
Par exemple, parce que là, il ne s'agit pas seulement du M23 et du gouvernement. On dit M23 qui est soutenu par le gouvernement rwandais, mais là, vous parlez, il faut savoir que l'armée, et plutôt l'armée congolaise, est soutenue par plusieurs forces. Et là, sur le terrain, donc ça...
Oui, on peut revenir sur tout ça, puisqu'on parle aussi du Rwanda à côté des rebelles du M23. Alors, Frédéric Amani, des observateurs, affirme noter une implication croissante d'autres États, notamment le Burundi, qui a envoyé, selon certaines sources, 10 000 hommes. Assiste-t-on à une régionalisation progressive du conflit, ou est-ce qu'on est déjà dans cette étape?
Bien, effectivement, les sommets de Dar es Salaam étaient entre autres aussi pour ça, pour essayer d'harmoniser les vies afin de ne pas aller à l'embrasement de la région, parce que le sommet de Dar es Salaam non seulement avait pour but de fusionner les deux processus, Nairobi et Luanda, et aussi essayer de dissuader l'Afrique du Sud, l'Angola et le Burundi qui, d'une manière ou d'une autre, étaient du côté RD Congo, et de dissuader aussi le Rwanda avec aussi l'Ouganda d'une manière, et de ne pas envoyer des troupes, parce que la crainte, l'embrasement de la région risque de renvoyer, n'est-ce pas, au mauvais scénario des années 2000 où des armées étrangères se sont battues sur les sols congolais, et ce sera encore une perte de temps où on va dans des sommets, dans des rencontres pour essayer de trouver des solutions pacifiques, mais d'une manière aussi, on continue à encourager, n'est-ce pas, les hostilités. Je crois qu'il est temps que la communauté internationale et surtout les communautés sous-régionales d'insister sur le respect du cessez-le-feu et aussi une solution politique et diplomatique pour que la paix et la sécurité reviennent non seulement à l'est de la RDC, mais aussi dans la sous-région des Grands Lacs.
D'accord. Alors, Jean-Victor Collot, Kinshasa qui accuse ouvertement Kigali de soutenir les M23 pour piller les ressources de l'Est congolais, tandis que le Rwanda affirme vouloir se protéger contre les groupes armés, notamment les FDLR, qui menacent sa sécurité. Où se situe un peu la vérité?
Je voudrais précisément, en répondant à cette question, réagir à ce qu'a dit tout à l'heure mon éminent confrère à Addis Abeba. Je pense qu'il faut savoir que, oui, mon frère Karegué à Addis Abeba, l'histoire va nous juger tous. En réalité, on ne peut pas nier aujourd'hui que le Rwanda est bel et bien impliqué en République démocratique du Congo, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Kinshasa qui accuse. Des rapports précis, documentés avec des photos, affirment et montrent que le Rwanda est bel et bien au Congo et que le M23, en réalité, est une force qui est aidée, financée, manipulée, diraient certains, par le Rwanda. Donc la dimension rwandaise doit être importante. Tout en plaidant pour le dialogue, il faut aussi que les forces non invitées se retirent. C'est précisément mot pour mot ce que dit la déclaration de Dar es Salaam. On ne peut pas simplement retourner cette histoire contre la République démocratique du Congo et les faiblesses de la gouvernance au sein du Congo, à Kinshasa, ne sont pas une justification pour venir faire sur le territoire du Congo ce que l'on veut. Si on laisse cela passer...
Excusez-moi de vous interrompre, mais qu'est-ce qu'on ferait par exemple des FDLR? C'est une préoccupation légitime de Kigali ou pas?
C'est une préoccupation légitime, mais elle n'est pas suffisante pour justifier une intervention et une sorte d'abus de l'intégrité territoriale et de la souveraineté d'un pays. Vous savez, il y a des opposants burundais qui sont au Rwanda. C'est pas pour autant que le Burundi va aller attaquer le Rwanda ou supporter des troupes à l'intérieur de ce pays. Il y a des valeurs en Afrique et dans le monde qui sont encore sacro-saintes. Ça s'appelle l'inviolabilité stabilité des frontières héritées de la colonisation.
D'accord.
Et la sécurité nationale, c'est une chose. Et c'est très important que l'on respecte cela.
D'accord. Alors justement, Jean-Pierre Karigué, le M23, et vous pourrez répondre, est-il aujourd'hui une force autonome ou un prolongement des intérêts rwandais dans l'est de la RDC, comme le disent certains?
J'aimerais revenir à ce que Kolo disait. Je crois que ça, c'est important. On veut comprendre les causes de cette crise. Donc, si vous voyez, tout est en train de revenir, d'être ramené à des petites choses comme... enfin, ce que j'appelle petite chose, c'est-à-dire à certains éléments de l'habilité des frontières héritées, et on le dit fièrement, héritées de la colonisation, et les matières premières qu'il y a, les minerais qu'il y a au Congo, et puis le Rwanda qui soutient ou qui soutiendrait le M23. Et voilà l'histoire. Mais on ne pense pas aux humains, on ne pense pas aux coûts, aux victimes qu'il y a. Et ça, c'est d'ailleurs une des raisons. Quand vous parlez, par exemple, l'habilité des frontières. Est-ce que vous pensez aux gens, ben justement quand il y a eu le partage du royaume du Rwanda entre la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre qui se sont mis d'accord, et c'était en 1910 où certains des territoires rwandais sont devenus congolais, ça passe. Donc les territoires sont congolais, mais les habitants, les propriétaires des terres ne sont pas congolais. Et ça, c'est une des raisons des crises, de la crise. Donc ça, c'est depuis. Nous sommes là en 1910. Et depuis là, jusqu'à présent, les habitants de ces terres, là où se déroule la guerre, ne sont pas acceptés dans leur pays. Et vous voulez une preuve pourquoi ils ne sont pas acceptés? Le Congo est devenu indépendant en 1960. 1965, il y a des élections. Le gouverneur Denis Paluku, il fait une liste, il exclut tous les rwandophones. Et là, nous sommes au début. 1980, on s'attaque aux rwandophones dans les universités congolaises. Et là, ce qu'on avait appelé Opération Herbe. 1991, les conférences nationales souveraines, plus de 2000 invités se réunissent pour avoir un projet de société. Et à ce moment-là, on fait sortir de la salle tous les rwandophones. Et pendant plusieurs périodes, 1996, on demande à tous les rwandophones. Donc, c'est ce que je vais dire.
Non, je comprends l'historique que vous voulez évoquer. Mais, malheureusement, on est un peu coincé par le temps.
Ce que je vais dire à Kolo, donc, c'est-à-dire ces gens qui prennent les armes, à tort ou à raison, sont menacés. Ils ne peuvent pas voter, ils sont pas acceptés.
Je dois donner quand même la parole à Frédéric. Si vous voulez, on peut revenir sur cette question. Frédéric, avant d'aller en pause, la situation humanitaire est critique, comme le disaient un peu les deux invités, avec des pénuries d'eau à Goma, des risques d'épidémie et des milliers de déplacés. Le conflit prend-il vraiment une tournure encore plus dramatique pour ces populations civiles, dont on ne parle pas beaucoup?
Oui, malheureusement, et voilà pourquoi je voudrais ici appeler les uns et les autres, c'est-à-dire les gouvernements et les groupes M23, de tout travailler, de tout mettre en œuvre pour éviter cette catastrophe humanitaire qui risque d'être plus dangereuse même que la guerre ou les coups de balles, dans la mesure où l'aéroport de Goma est encore fermé, alors il y a aussi le lac Kivu qui est encore... La population, que ce soit de Goma ou de Bukavu, profite de ces mouvements ou de ces transactions pour subvenir aux besoins de leur population. Tout à l'heure, dans votre reportage, on a parlé des banques qui sont fermées. Je pense qu'il faut le plus tôt, au nom du devoir humanitaire, que la communauté internationale, les organisations sous-régionales, les États impliqués à cette conflictualité mettent un peu d'eau dans leur vin pour résoudre cette crise humanitaire qui risque d'être plus dangereuse même que les coups de balle lorsque on fait quelque chose.
Voilà, merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs au Washington Forum. Ce sera juste après cette courte pause.
Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères,
VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
De retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 13 février 2025. Avec la menace d'une prise de Bukavu et le contrôle stratégique du lac Kivu en jeu, la situation atteint un niveau critique dans l'est de la RDC. Tandis que Kinshasa réclame des sanctions contre Kigali, accusé de soutenir le groupe anti-gouvernemental M23, la communauté internationale redoute un embrasement régional. La population, elle, paie un lourd tribut. Exode massif, crise humanitaire à Goma, coupure d'eau et risque d'épidémie. Le conflit peut-il encore être contenu? Alors nous poursuivons la conversation avec nos invités après quelques extraits des nombreux commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons d'abord ce commentaire donc sur Facebook avec Lionel Bingoum de la RDC. Il nous dit que malgré le nombre de morts, malgré le déplacement de la population et la souffrance que cela engendre, la communauté internationale reste sur sa position de complicité et de co-belligérance dans ce conflit. Et puis Brona du Congo-Brazzaville écrit « Cessez-le-feu n'est pas suffisant, il faut plutôt le retrait du Rwanda et de fortes sanctions à son égard, car il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures. » Voilà, donc sans plus tarder, retrouvons nos invités, Frédéric Amani de l'Université de Lubumbashi en RDC, également associé à l'Institut Thales en Afrique, Thales Afrique de Dakar au Sénégal, en tant qu'expert en sécurité, défense, maintien de la paix. Addis Abeba en Éthiopie, professeur Jean-Pierre Karegeye, directeur des études pluridisciplinaires sur le génocide, et puis du studio de la VOA à New York, Jean-Victor Colo, ancien porte-parole de Troyes, président de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors, Jean-Victor Colo, l'ONU qui a donc une présence militaire en RDC depuis des décennies est jugée impuissante face à cette escalade. La MONUSCO a-t-elle encore un rôle à jouer ou son retrait progressif signifie-t-il l'échec de la communauté internationale?
Il va falloir attendre de voir ce qui se décide ou ce qui se prépare actuellement au Conseil de sécurité. Selon mes informations, je crois qu'il y aura une résolution qui pourrait demander au Rwanda de retirer ses troupes. Et cette résolution est peut-être en train d'être préparée sous la plume de la France, qui va prendre le leadership de cette initiative. Pour ce qui est des forces internationales, y compris de l'ONU, j'ai quand même l'impression que le vent tourne, parce que les années, les décennies précédentes, était une chose, mais cette fois-ci, nous sommes en 2025, il y a les réseaux sociaux, il y a le soft power. Et je crois que l'attitude et l'approche que les deux présidents sud-africains et rwandais ont prise récemment est quelque chose d'assez inquiétant, parce qu'en Afrique du Sud, on a jugé les propos du président Kagame comme une sorte d'arrogance vis-à-vis d'un pays africain très important, l'Afrique du Sud, qui fut un pays nucléaire. Et je crois qu'avec l'arrivée ce jeudi 13 février des 14 dépouilles sud-africaines en Afrique du Sud, ce qui crée dans ce pays un véritable cataclysme politique, mais aussi avec le raidissement de la population burundaise, avec la possible implication du Tchad, il faut comprendre qu'avec le soft power, je pense que les Rwandais ne s'attendaient pas à avoir au Congo peut-être une autre arme, qui n'est pas l'arme des militaires, mais peut-être un soft power avec une ministre des Affaires étrangères qui est très efficace, qui est très éloquente, qui parle plusieurs langues et qui attaque maintenant, par exemple, les équipes de football qui, en Europe, militent pour un camp. Donc je pense que beaucoup de choses sont en train de changer et il faut espérer que la communauté internationale va sortir un peu de son hypocrisie ou de son attentisme et faire quelque chose de véritablement significatif.
D'accord. Alors, Jean-Pierre Karegué, est-ce que l'absence d'un dialogue direct entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi n'entrave pas un peu ses efforts diplomatiques?
Oui, et ça c'était un dialogue évidemment est important au et quand il y a un conflit, mais c'était aussi une sorte de, c'était aussi quelques limites aussi de disons de la de Luanda, parce que on voulait réduire le problème entre deux individus, entre deux personnalités, alors que la crise est essentiellement et profondément congolaise. Donc là c'est une population qui est persécuté, qui est exclu, qui a été tué et qui n'est pas protégé par son gouvernement. Mais au contraire, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il engage des mercenaires, il engage un autre pays, donc des militaires burundais, pour venir massacrer une partie de sa population. Donc je crois, et c'est là qu'il y a l'avantage de la Tanzanie, mais revenant aussi aux Nations Unies, en disant voilà s'il y a efficacité ou pas efficacité. Et je crois que ce qui est en train de se passer avec la MONUSCO, d'abord c'est par rapport à son mandat qui est donc de protéger la population, et évidemment clairement aussi d'appuyer les forces congolaises. Mais quand les forces des Nations Unies, en violation contre la convention de 1989 sur le recrutement des mercenaires, donc vous avez un gouvernement qui travaille avec des mercenaires, un gouvernement qui travaille avec des groupes rebelles comme les Wazalendo, et dans lequel on trouve aussi des enfants, qui travaille avec les FDLR. Ça, c'est vraiment, donc l'ONU est contre ses propres, donc ça c'est l'esprit même contre les Nations Unies. Alors, comment est-ce qu'on va avoir des Nations Unies qui s'appuient sur des forces génocidaires, sur des rébellions, et même des enfants soldats contre les Wazalendo?
Mais ça, Jean-Pierre, si c'est un problème congolais, pourquoi le Rwanda s'implique? Est-ce que ou bien vous pensez que le Rwanda n'est pas du tout impliqué?
Oui, le Rwanda s'implique ou s'impliquerait pour plusieurs raisons. Et s'il n'est pas impliqué, il devrait s'impliquer. Première
raison.
Je termine là-bas. Oui. Il y a les FDLR. Donc les FDLR sont là. Le président Tshisekedi a dit à plusieurs fois qu'il veut changer de régime à Kigali. Et le discours de haine qui existe est contre les rwandophones et les rwandais. Et donc là, je crois que ce sont des éléments qui constituent sérieusement atteinte à la sécurité du Rwanda.
Alors, Jean-Victor, plutôt Frédéric Amani, les précédents processus de paix, notamment ceux de Nairobi et Luanda, ont échoué à stabiliser la région. Pourquoi ces efforts diplomatiques n'ont-ils pas abouti, selon vous, Amani?
Bien. Merci beaucoup pour la parole. Avec votre permission, le débat est houleux, mais je voulais revenir sur la question des dialogues. Moi, je pense qu'il ne faut pas appliquer une politique de deux poids, deux mesures. Les dialogues en RDC, oui, parce que le dialogue est une vertu. Les sociétés démocratiques doivent dialoguer. Mais moi, je pense que la communauté internationale devrait aussi faire pression au Rwanda. Puisqu'on prétexte que les FDLR sont à l'Est, eh bien, qui sont des Rwandais, bien qu'ils soient génocidaires, on peut aussi organiser des dialogues au Rwanda avec les FDLR, et qu'au niveau interne, en RDC, on doit aussi organiser les dialogues. Je pense qu'à ce niveau-là, on devrait être clair. Alors, l'échec du processus de Luanda et de Nairobi, d'un point de vue en tant que chercheur de ces questions, je pense qu'il y a un tonus qui manque, c'est ce caractère coercitif qui devrait, n'est-ce pas, être mis en place, que ce soit pour le processus de Luanda ou pour le processus de Nairobi. Ça, c'est de un. Et je pense que stratégiquement, ce sera une erreur de fusionner les deux processus dans la mesure où, pour Luanda, il y a un problème entre deux États, le Rwanda et la RDC. Alors que pour Nairobi, c'est tous les groupes armés, y compris les M23. Et moi, je pense qu'on peut séparer ces deux processus, mais renforcer les moyens, renforcer des stratégies pour que cela conduise à des résultats escomptés et que la paix revienne à l'Est et dans la sous-région de Grand Lac, plus de deux décennies, il y a lieu que chaque État s'interroge sur sa participation.
Voilà, nous allons terminer cette émission avec ces notes d'espoir. Merci énormément à mes invités et à vous, nos téléspectateurs qui nous avez suivis sur nos différentes plateformes digitales et à travers nos télépartenaires sur le continent. On se retrouve très bientôt sur VOA. Au revoir.